Réplique, l'histoire et l'avenir du fascisme en France avec Pierre Milza et Zev Sternel. La France va mal. La France est en crise. La France s'inquiète de la montée de l'islamisme. La France rêve de frontières moins perméables à l'immigration. Et nous disent aujourd'hui des professeurs de sciences politiques comme Enzo Traverso, des sociologues comme Luc Boltanski, Arnaud Esquer et Philippe Corcuff, des historiens comme Pascal Blanchard et Yvan Gastel, des journalistes comme Edoui Plenel, Claude Askolovitch et Renaud Dely, cette France qui va mal, cette France en crise, cette France apeurée est la sinistre copie conforme de la France des années 30. Selon les auteurs que je viens de citer, l'histoire se répète malgré le martèlement continu du devoir de mémoire, et cette répétition n'est pas une farce, c'est, si l'on ne fait rien, une nouvelle tragédie annoncée. Parce que ce terrible diagnostic mérite d'être lui-même interrogé, j'ai invité aujourd'hui deux éminents historiens. Pierre Milza, l'auteur, entre autres, de « Fascisme français passé et présent », et Zev Sternel, qui publie un livre d'entretien avec Nicolas Veil, « Histoire et lumière, changer le monde par la raison ». Je leur poserai deux questions. La France des années 30 du XXe siècle était-elle en proie à la tentation fasciste? Cette tentation ressurgit-elle à l'aube du nouveau millénaire? Mais parce que le mot de fasciste est devenu, comme l'écrit Jacques Julliard, une injure passe-partout destinée à disqualifier l'adversaire, une question préalable s'impose. Quelle définition rigoureuse peut-on donner du fascisme? Pierre Milza.
Cette définition, elle est moins due à moi en tant qu'historien qu'à un historien italien qui s'appelle Gentile, Emilio Gentile, qui depuis la mort du grand spécialiste du fascisme qui était De Felice, occupe le devant de la scène. Et justement, comme vous pensiez que peut-être, je me pensais que peut-être vous alliez m'interroger là-dessus, j'ai pris la définition de Gentile.
Alors, donnez-la nous.
Le fascisme est un phénomène politique moderne, nationaliste et révolutionnaire, antilibéral et antimarxiste, organisé en partis milices avec une conception totalitaire de la politique et de l'État, avec une idéologie activiste et antithéorique, avec des fondements mythiques, virilistes et anti-hédonistes, sacralisé comme une religion laïque qui affirme le primat absolu de la nation. Alors j'ai relevé là-dedans quelques mots qui étaient déjà les nôtres, aux historiens et également aux politologues d'ailleurs, dans les années 30 et bien avant. C'est le fascisme, phénomène nationaliste et révolutionnaire, antilibéral et antimarxiste. C'est le parti milice, et nous allons probablement en reparler, avec une conception totalitaire de la politique et de l'État. Donc on trouve déjà un peu les mots-clés. Qui, moi, me semble aller dans le sens, non pas d'une définition définitive du fascisme, non pas d'une affirmation absolue du fascisme, mais plutôt dans une interrogation pour nous demander aujourd'hui encore ce que c'est.
Très bien. Donc on a cette première définition. On s'interrogera sur les limites,
bien sûr.
Ce qui n'est pas fasciste dans certains mouvements des années 30. Mais cette définition, vous agrée-t-elle, Zev Sternel? La reprenez-vous à votre compte ou avez-vous une définition un peu différente, peut-être un peu plus large?
Tout d'abord, il faut savoir si on parle d'une idéologie, d'un mouvement ou d'un régime. On ne peut pas mélanger les deux. Le fascisme, c'est une idéologie. C'est un phénomène culturel tout d'abord, c'est un mouvement ou des mouvements, et c'est un régime, un quart, disons, en Roumanie aussi. Mais le régime dont on parle, c'est le régime italien. Alors, ces questions-là, j'y réfléchis depuis les années 70, et je vais vous donner un certain nombre de conclusions. Tout d'abord, Le fascisme, ce n'est pas le nazisme. Il faut bien comprendre que fascisme, nazisme, ce sont des phénomènes, deux phénomènes qui ont un certain dominateur commun, mais qui sont différents. Le caractère diabolique du nazisme, ce n'est pas le fascisme, même à l'apogée. Ensuite, le fascisme n'est pas un phénomène de l'entre-deux-guerres, comme Dolte le voudrait d'autres. En tout cas, très souvent, ceux qui veulent évacuer ces phénomènes de l'histoire nationale. Pour Crouch, le fascisme, c'est un phénomène entre parenthèses. Un grand pays pris en sorte prisonnier par une bande de brigands, etc. Pour évacuer le fascisme de l'histoire de Vichy. En France, pour évacuer Vichy de l'histoire nationale, c'est un phénomène, lui aussi, en fait, entre parenthèses, qui n'appartient pas vraiment à cette histoire. Alors, le fascisme, à mon sens, est le produit de la grande crise de civilisation, des changements fabuleux qui interviennent au tournant du XXe siècle. Parce que la vie a changé en Europe au cours des 40 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, plus qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne. Si on revenait, nous, au tournant du XXe siècle, on se retrouverait en terrain plus ou moins connu. Un Européen revenu de 1900 à 1800 pourrait revenir à 1400 ou à 1500, ce serait du pareil au même. Le monde a changé. Le fascisme est le produit de cette crise-là, qui est une crise à double facette. Une crise du libéralisme et des Lumières, notamment des Lumières françaises, et une crise du marxisme. C'est un phénomène génial, si vous voulez, parce que c'est une révolution nouvelle, d'un type tout à fait nouveau. À la crise du libéralisme, le fascisme répond « On peut vider le libéralisme de son contenu intellectuel et moral et on peut préserver ses structures économiques et sociales. » C'est ça le très génial, si vous voulez, tout d'abord des élèves, des disciples de Sorel en Italie, les grands syndicalistes, les grands intellectuels du syndicalisme révolutionnaire comme Arturo Labriola, Panunzio, Olivetti, d'autres encore, qui parviennent à cette conclusion-là. Le marxisme, la crise du marxisme, il y a trois réponses à la crise du marxisme. Il y a la social-démocratie, il y a la solution léniniste et il y a la solution fasciste. La solution fasciste, c'est...
Non, à la crise du libéralisme, pas à la crise du marxisme. Vous dites qu'il y a trois réponses à la crise du marxisme.
Ah, tout à fait.
Pourquoi peut-on parler au début du siècle d'une crise du marxisme ?
Mais la crise, la grande crise du marxisme du tournant du XXe siècle... Lorsqu'on s'aperçoit que le capitalisme n'est pas sur le point de s'effondrer,
ah oui, d'accord.
Et lorsqu'on s'aperçoit que le prolétariat cessait d'être cette force révolutionnaire à laquelle rêvaient les marxistes, les disciples, la première génération des disciples de Marx. Alors, que fait-on ? Le marxisme, c'est la solution, c'est la social-démocratie, le léninisme ou le fascisme. La synthèse ou la rencontre du nationalisme dur, le nationalisme de la terre et des mœurs, le nationalisme du sang et du sol, et de la révision du marxisme, produit cette dynamique révolutionnaire, une révolution d'une type tout à fait nouveau. C'est ça qui nous donne cet ensemble, qui se développe d'abord dans la société libérale la plus avancée du continent européen, c'est-à-dire en France, et qui passe... Ensuite, en Italie, où cette crise mûrit, cette idéologie, cet ensemble idéologique mûrit et est déjà plus ou moins élaboré à la veille de la Première Guerre mondiale.
Bien, alors Pierre Mizard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Peut-être pas poser deux questions, faire deux remarques. Première, qu'est-ce que vous faites, Sternel ? D'abord, la première, en fait, qui est fasciste ? Dans l'Europe des années 30, et déjà dans l'Europe d'avant 14, qui est fasciste, qui va le devenir, et comment, et pourquoi ? Quelles sont les raisons qui font que certains pays vont glisser vers ce que vous appelez le fascisme, et que d'autres vont aller, comme je le pense moi, vers une plus grande extension du phénomène ? Ce qui m'amène à un deuxième problème, comment vous faites la différence ? Nous, les historiens, enfin, par tous les historiens. Il y a la plupart des historiens, vous les connaissez bien. Vous avez fréquenté la guerre à Sciences Po. Comment nous faisons pour dire ça, c'est fasciste et ça, ça ne l'est pas? Ou du moins comme proposition à notre à ce que nous faisons. Alors là, moi, ça me semble important parce que si nous prenons l'Europe de 1930, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement l'Allemagne et l'Italie, mais il y a beaucoup d'autres pays.
Oui, mais attendez, Pierre Mizza, il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais avoir votre éclairage. Après, on en viendra à l'extension et aux limites du fascisme, notamment dans la France, en effervescence des années 30, avec tous les mouvements qui la traversent. Est-ce que tout anti-libéralisme de droite peut être qualifié de fascisme? Mais avant cela, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'importance de la Première Guerre mondiale dans la naissance et le façonnement du mouvement fasciste. Zev Sternel refuse d'accorder un rôle absolument primordial dans cette guerre. Beaucoup, au contraire, pensent que le fascisme n'aurait pas pu se concevoir sans cette solidarité des tranchées, sans cette expérience-là de la guerre. Quelle est votre position?
Alors, elle est très claire. Pour moi, pas de fascisme s'il n'y a pas la guerre. On peut la discuter, hein, mais comme Sternel nous pose comme question sur la validité de l'histoire globale par rapport à l'histoire des idées, je suis amené, si vous voulez, à répondre sur ce terrain. D'abord, pour moi, pas de fascisme sans totalitarisme. C'est-à-dire sans volonté de formater l'individu et de formater même les groupes sociaux sur une image, sur un projet qui est un projet politique, mais en même temps culturel, etc. Bon, nous connaissons bien ça. Quelle différence faisons-nous? Moi, je l'ai fait, et d'autres historiens la font, à propos précisément du totalitarisme.
Et vous pensez que le totalitarisme lui-même est un produit de la guerre de 14?
Absolument. Je releverai un événement, si vous voulez, qui est quelquefois un peu laissé de côté quand on parle de la naissance du fascisme. Quand on parle de la naissance du fascisme, même chez Tasca ou des gens comme ça, on dit, bon, on en fait l'histoire, ou Sternel nous dit, de toute façon, c'est pas important, ce qui est important, c'est l'histoire des idées. Et Dieu sait si elle est importante, si je suis d'accord avec le fait qu'elle est importante. Mais prenons le cas de l'Italie, en 1916. Qu'est-ce qu'on voit en Italie en 1916? On voit arriver par train entier, à Rome, à Milan et ailleurs, des gens, des hommes qui sortent de la fournaise, qu'on amène sur le terrain, à Rome ou ailleurs, et qui sont des blessés, des mutilés graves, enfin des gens qui ont souffert de la guerre. Et où Mussolini va-t-il d'abord rechercher ses troupes, hein, c'est-à-dire cette milice, ce parti milice dont il a besoin pour prendre le pouvoir? Car allez-vous prendre le pouvoir s'il n'y a pas de pouvoir? Donc, on voit arriver ces hommes-là, et ces hommes-là sont généralement, la plupart du temps, parce qu'on a fait des travaux là-dessus, des gens qui ont souffert de la guerre, qui ont été gravement blessés, etc. Et il prend ces hommes-là. Et si vous prenez la liste des races fascistes, c'est-à-dire de ces petits chefs haillons des provinces, vous apercevez que, ou bien on les trouve par des petits commerçants, etc., ou bien on les trouve dans cette catégorie, et bien souvent dans une catégorie qui relève des deux. Donc pour moi, il faut que cette catégorie existe, il faut qu'il y ait effectivement un parti milice tout prêt à se battre, pour qu'il y ait un parti milice prêt à se battre, et pour qu'il y ait une guerre qui se poursuit dans cette direction.
Bien, donc Zev Sternel.
La guerre a fourni les troupes. Elle a créé les conditions psychologiques, les conditions morales qui ont permis à cette idéologie de prendre le pouvoir. Pourquoi l'Italie? C'est une autre question dont on peut parler après, mais n'oublions pas que le fascisme a existé partout en Europe, y compris d'ailleurs, il a existé aussi en Amérique du Sud. On écrit aujourd'hui, j'ai sur ma table un livre qui compare l'Argentine à l'Italie. C'était pas sans guerre mondiale. Il n'y a pas eu de guerre mondiale en Argentine. L'Espagne n'a pas souffert de la guerre mondiale. Tout Mettre tout sur le dos de la guerre mondiale, c'est une erreur de perspective. Ce n'est pas une question d'histoire des idées ou d'autres histoires, c'est une question de fait. D'ailleurs, la brutalisation dont parle George Moss, on vient de découvrir George Moss avec un retard de 40 ans, quelque chose comme ça. La brutalisation, et on parle toujours de la brutalisation dans le contexte italien et allemand. Mais c'est curieux. Sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas que les Italiens et les Allemands. Où étaient les Français, les Britanniques, les Américains? La brutalisation n'a pas touché les Français. L'Union nationale des combattants, si on regarde les spécialistes qui écrivent, les spécialistes français actuels, eh bien, ce sont tous des pacifistes. Alors, d'un côté sortent les pacifistes, de l'autre sortent les brutes des troupes d'assaut italiennes. Mais l'essentiel, Alain, l'essentiel, la Première Guerre mondiale a fourni donc les conditions. L'idéologie était là. Cette idéologie mûrit avant la Première Guerre mondiale. Elle devient une force politique après la guerre mondiale dans un pays en crise. Que la crise italienne ait été réelle ou imaginaire, c'est une autre affaire, mais c'était une crise. Maintenant, le totalitarisme, c'est un terme inventé aussi en Italie, je crois que c'est Gentile, le premier Gentile, pas Emilio et Mussolini qui l'ont trouvé, pour expliquer la nouveauté révolutionnaire du phénomène fasciste. Le terme totalitaire a perdu beaucoup de son sens. Mais une chose est certaine, c'est que le régime italien tel qu'il est mis en place, quand ça, après 1929, parce que Mussolini était parvenu au pouvoir par des moyens légaux, il est à la tête d'une coalition gouvernementale tout à fait normale dans le système italien. La fascisation du régime se fait pendant 3-4 ans, entre 1925 et 1929. Et ce régime-là, il n'est pas totalitaire dans le sens où l'on entend en général, c'est-à-dire que l'État gouverne chaque aspect de l'activité politique, sociale et culturelle. C'est aujourd'hui une vue de l'esprit, ça n'a jamais existé.
Sauf peut-être dans la Russie stalinienne, alors.
Le système stalinien, c'est une autre affaire. Non. C'est une autre affaire, et Mussolini, par exemple, d'ailleurs, Mussolini regardait Lénine comme un fou. Ceux qui prétendent que Mussolini est un disciple de Lénine, vraiment n'ont rien compris. Parce que Mussolini s'est dit, mais moi, je peux faire travailler la bourgeoisie pour la patrie, pourquoi la détruire? Dans ce sens, c'était vraiment une révolution d'un type nouveau. Mmh. Et le totalitarisme, c'est vraiment un concept qui, dans la plupart du temps, ni en Italie ni ailleurs, n'a pas été appliqué dans le sens où on entend qu'on gouverne chaque aspect de la vie sociale et culturelle et tout et tout et tout au nom de l'État et par l'État et dans l'État. Cette réalité-là n'a pas existé, mais en Italie, elle n'a pas existé. Je ne parle pas maintenant de l'Allemagne. Ça aussi, c'est une...
C'est
très proche, mais ce n'est pas la même chose.
D'accord, mais alors, revenons maintenant à la France. Il y a eu un régime fasciste en Italie, régime national socialiste en Allemagne, dans la France des années 30. C'est la Troisième République qui existait. Le fascisme n'y a pas été instauré. On verra tout à l'heure si Vichy est la victoire tardive du fascisme en France. La question que je voudrais poser, qui était fasciste en France? C'est-à-dire, où s'arrêtait le fascisme, je le demandais tout à l'heure, tous les mouvements antilibéraux, voire monarchistes, antirépublicains en France, ou hostiles à la Troisième République, peuvent-ils être qualifiés de fascistes? Pierre Mizard.
Oui, alors moi je suis d'abord très content d'entendre Zeb Sternel parler de ces différentes périodes dans lesquelles on voit se développer les mouvements fascistes. Précisément parce que ce sont des périodes différentes. Et ma question est, parce qu'elle turlupine un peu l'historien, cette question, ma question est, est-ce que l'historien peut parler d'un régime, parler d'un ensemble qu'on appelle le fascisme, Et en même temps, à quoi se réfère-t-il ? À quelle période du mouvement ? À quelle période de l'idéologie ? De quoi parlons-nous ? Et je trouve que là, ce n'est pas facile à trouver. Que ce qui est intéressant chez l'historien, c'est de montrer que c'est quelque chose, en fait, qui se développe selon un certain plan et qui fait qu'on peut passer d'un régime tel qu'on le décrit dans ce texte à un régime, au contraire, beaucoup plus structuré. Ce qui m'amène qui nous fait sortir quand même un petit peu rester un petit peu plus exactement dans la première question que nous nous sommes posées sur les étapes du fascisme. J'ai essayé, moi, à plusieurs reprises, de présenter cette question comme une possibilité de parler du fascisme dans la mesure où on ne parlait pas de la même chose en 1930 et en 1940, et même en 1920 et 1930. Alors là, il y a un vrai problème qui se pose et dont j'aimerais bien avoir la réponse.
Oui, mais quand même, moi, je tiens à ma question, je suis obstiné, je suis têtu. Dans la France des années 30, on peut pas, c'est pas du tout la même évolution que l'Italie, en effet, il y a eu des changements en Italie entre la prise de pouvoir par Mussolini et l'Italie qui entre en guerre avec Hitler. Mais en France, dans les années 30, de qui était fasciste ? Le fascisme était-il un mouvement d'idées majoritaire, selon vous ?
Ah, il n'est absolument pas majoritaire comme mouvement d'idées, et il n'est pas majoritaire tout court. Hein ? C'est-à-dire qu'il y a une infinité de gens, un nombre important de gens qui se disent fascistes. Les uns sont des intellectuels comme Drieu, les autres sont des croix de feu comme Larocque.
Larocque ne s'est jamais dit fasciste.
Non, il ne dit pas fasciste. Enfin, on dit qu'il... Bon.
On dit qu'il l'est à l'époque.
Qu'il l'est à l'époque. Donc, c'est une minorité. Pour rendre justice d'ailleurs à Sternel, c'est une majorité dont on grossit peut-être un peu trop en France, dont on minore plus exactement un peu trop en France le rôle, en disant « tout ça c'est fasciste ». Bon, non, il y a une spécificité, et même quelquefois une spécificité qui amène certains chercheurs qui travaillent sur le fascisme à aller un petit peu vite dans leur définition ou dans leur recherche. Je pense à Déa. Je pense à Déa parce que Déa, c'est un des grands du Parti Socialiste SFIO. Hein ? Il est numéro 2 ou numéro 3 en 1930 du Parti SFIO, du Parti Socialiste, bien. Et Déa, à cette époque, 1930, 32-33, c'est le moment où il rompt avec le RNP, enfin, on ne s'appelle pas encore le RNP, avec le parti, disons, fascisant, et où, du jour au lendemain, on va le voir passer du socialisme national, comme ça qu'il l'appelle, au national-socialisme, avec évidemment tous les entraînements que cela peut prononcer quand on parle du national-socialisme et donc du socialisme national. Remarquez, on trouve la même chose en Allemagne. Je reviens, moi, d'un colloque sur lequel on avait évoqué ce problème du passage de l'un à l'autre. Mais ne prenons pas trop de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même qu'on fait un délit un petit peu d'histoire régressive, progressive-régressive, de dire socialiste national un jour, et puis 10 ans après, on est national-socialiste. Comme si c'était dans les gènes. Alors je crois qu'il faut ramener... Vous savez, ça me fait penser, on a le droit de sourire un petit peu, ça me fait penser à un film de Lelouch, je crois que c'est Lelouch. Partir, revenir. C'est ça où l'aventure, c'est l'aventure. Où on voit le quai de Braunau, hein, sur l'Inn, un quai avec un petit bonhomme de 8 ans, petit garçon de 8 ans, qui a le costume de la SA, le chapeau, enfin la casquette de la SA, etc., qui fait le salut. C'est une plaisanterie, c'est une métaphore. Mais c'est une métaphore qui nous montre comment on peut ainsi utiliser un argument sérieux dans une revue des... Est-ce qu'un mouvement, etc. Voilà, donc...
Oui, mais alors vous dites quoi ? Vous dites que D.A.
D.A. est devenu...
Il est devenu fasciste.
D'Oriot l'est déjà.
Oui, mais ils sont devenus fascistes. Ils ne l'étaient pas auparavant, mais est-ce que vous diriez que tous les non-conformismes des années 30 étaient eux-mêmes fascistes ? Peut-on parler d'une tentation fasciste de la revue Esprit ou non, par exemple ?
Bien sûr que non. Ils appartiennent pour moi à ce que Girardet appelait l'imprégnation fasciste. J'ai beaucoup connu, qui a été un grand historien et qui traitait de ces questions. Il nous dit que c'était de l'imprégnation fasciste, comme Raymond également, bon, et beaucoup d'autres. Donc ma réponse est non, c'est pas parce que vous êtes inscrit au RNP que vous êtes fasciste. Il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses.
C'était quoi le RNP ?
Rassemblement National Populaire.
Là encore, ce que l'on voit très bien, je suis content que Pierre Mizan et mis des as sur la table, parce que ça montre vraiment la grande continuité de la tradition fasciste entre l'avant-guerre et l'après-guerre. La tête pensante derrière les néo-socialistes, c'est Henri Desmond.
Oui.
C'est le philosophe. Et Henri Desmond nous apprend quoi ? Nous, à eux, il a appris que l'exploitation n'est pas un phénomène économique, un phénomène que l'on peut mesurer comme pensaient les marxistes, mais un phénomène psychologique. Vous êtes exploité si vous vous sentez exploité. Donc, on peut changer la vie, on peut totalement changer la vie, les relations des hommes, en créant un milieu psychologique différent. Si le veilleur de nuit chez M. Krupp et M. Krupp appartiennent au même parti, portent le même uniforme, ils ne sont plus... L'exploitation a disparu. L'exploitation a disparu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'antilibéralisme qui fait le pont sur la Première Guerre mondiale, la révision du marxisme qui fait le même pont, se rencontrent de nouveau, d'abord dans les années 20, et ensuite dans les années 30. Parce qu'il ne faut pas oublier que les années 30 sont précédées par les années 20. Il se passe pas mal de choses pendant les années 20. Et on voit réapparaître des idéologies, des mouvements, des hommes qui portent la même haine du libéralisme et du marxisme, la même haine des Lumières françaises, des droits de l'homme, qui cherchent de détruire de la même façon la démocratie et qui préconisent une dictature qui porte au nu le chef. La Roque, ce sera le chef, seulement il n'a pas la carrure de Mussolini. Et tous ces phénomènes-là, on les constate, on les voit dans la France des années 30. Et ces phénomènes-là, ils ne sont pas tous exactement les mêmes, mais ils ont tous le même dénominateur commun. Et c'est ça qui importe.
Oui, mais alors attendez, Zef Tchernel, là j'ai quelques questions plus précises à vous poser.
Oui.
J'ai consacré il y a quelques mois une émission à La Roque, donc je ne tiens pas à y revenir trop longuement, mais j'ai sous les yeux le dictionnaire amoureux de la résistance de Gilles Perrault. Il y a un article consacré à La Roque qui est entré dans la résistance en 1942, mais c'est pas la question, c'est sur 1934. Il a refusé d'aller prendre l'Assemblée nationale et dit, Gilles Perrault, ce que les chiffaillons fascistes et aussi l'Action française ne pardonnaient pas à La Roque, c'était son refus de mettre ses militants au service de leur projet d'en finir par la force avec la République. La haine culmina le 6 février 1934 quand les croix de feu eussent pu vraisemblablement s'emparer sans trop de mal de la Chambre des députés, mais s'en abstinrent conformément à l'ordre de leur chef. Elles y gagnèrent, décernées par une extrême droite enragée, le sobriquet de froide queue. Autre exemple, il y avait une critique très forte à la fois d'une république impuissante et du marxisme dans la revue Esprit, que vous critiquez très fortement dans Ni de droite ni gauche. Or, Mounier et la revue Esprit ont pris parti de manière très claire, notamment contre l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie. Ils se référaient à une définition de l'engagement, nous
en
même... qui n'a rien à voir avec le fascisme. Donc là, effectivement, ne doit-on pas mettre des limites au fascisme ? Parce que si on ne l'aimait pas, au nom de l'imprégnation fasciste, on voit du fascisme dans toute critique d'une république qui était de toute façon exsangue.
Alors, non, non, non. Parce que, tout d'abord, le mouvement comme celui de La Roque présente l'essentiel des idées l'essentiel de l'idéologie fasciste, l'essentiel d'une organisation fasciste, un mouvement de masse avec des troupes de choc, les dispo, d'une capacité extra de mouvement extraordinaire.
Mais pourquoi était-il haï par l'extrême droite alors ? Par l'Action française, etc. Il y a quand même des divergences.
Pourquoi
défilait-il ?
Pourquoi défilait-il dans
la synagogue de la Victoire contre l'antisémitisme ?
Il refuse le leadership de Maurras. Il refuse de se mettre à la remorque de Maurras comme il refuse de se mettre à la remorque de Doriot. Il veut être le chef. Il attend son heure. Il a un mouvement dont personne ne dispose. Attends, on a près d'un million d'adhérents à la veille de la guerre. 600 000 selon les statistiques les moins généreuses vers 36. Et ce mouvement-là dispose de troupes de choc. Il cherche l'affrontement et l'intimidation constamment. Mais il attend de prendre le pouvoir par la voie parlementaire, par la voie de la démocratie, comme Mussolini et comme Hitler.
Oui.
Il n'y a pas eu de coup d'État, ni mussolinien, ni hitlérien.
Oui, et en même temps, sous Vichy, il refuse, même s'il fait allégeance au maréchal, il refuse la collaboration, et dès 1942, il bascule complètement dans la résistance.
Mais il il refuse la collaboration, pourquoi ? Parce qu'il est patriote.
Ben
tu sais combien de fascistes polonais et hongrois ont été liquidés par les Allemands ? Le fait d'entrer en 1943 dans la résistance...
42.
Il y a encore une résistance.
Il a été quand même emprisonné.
Ce n'est pas la résistance
armée. Non, il s'opposait à la France libre.
Ça, c'est un mythe.
Non, bon,
ça, c'est une certaine façon maintenant.
C'est une certaine façon
de dédouaner un mouvement que la majorité, la grande majorité des chercheurs, aussi bien français qu'étrangers, définit comme un mouvement fasciste.
Il y a Robert Soucy qui le définit comme un fasciste.
Il y a une dizaine d'autres chercheurs qu'on ignore parce qu'ils n'ont pas été traduits. Alors, et ça, dans le milieu, c'est pas manque d'avoir voulu être traduit.
Parce que moi, je me souviens des relations avec Soucy, notre cher ami Robert Soucy. Bon, non, moi, il y a quelque chose que je pense qu'il faut regarder d'assez près sur les limites du fascisme. C'est ce qu'en pensent Hitler et Mussolini. Que pensent Hitler et Mussolini dans leurs... J'ai fait un bouquin sur les entretiens de Hitler-Mussolini.
Oui.
Bon. Et sur Ciano, le journal de Ciano. Qu'est-ce que Mussolini et Hitler disent, lorsqu'ils parlent du fascisme et du nazisme, c'est ces mecs-là, c'est des rigolos. Voilà ce qu'on dirait aujourd'hui. Lorsque les gens de l'Action française, avec leur chapeau de forme parfois, descendent les Champs-Élysées en chantant un chant martial, bon, les dirigeants libéraux qui sont là, enfin, ou les dirigeants fascistes qui sont là, disent la même chose. Montre du doigt ces types qui se prennent pour des fascistes et qui ne sont pas comme nous, disent-ils, des totalitaires. De même que le mot totalitaire, on le trouve pendant la guerre d'Espagne.
Et leur esprit, donc, justement.
Alors, je vais te citer quelques phrases.
Et moi aussi.
C'est un texte de Mounier, à page 520 de ses œuvres. « Quiconque a visité sans parti pris les pays fascistes, pris contact avec leurs organisations, avec leur jeunesse, n'a pas manqué d'être frappé en effet de l'authentique élan spirituel qui porte ces hommes violemment arrachés à la décadence bourgeoise, chargés de toute l'ardeur que donne d'avoir trouvé une foi et un sens à la vie. » Le nier ou combattre des valeurs authentiques, bien que troubles et de remuante fidélité à un monde décadent ou à des vertus en portefeuille, opposer une incompétence de partisans ou des exhortations de sédentaires à des pays qui ont retrouvé le sens de la dignité, à des jeunesses qu'on a débarrassées du désespoir, à des hommes qui viennent de découvrir, après des années d'indifférence petite bourgeoise, le dévouement, le sacrifice, l'amitié virile, etc., etc.
Oui, alors, il y a eu un moment, bien sûr.
C'est pas un moment.
Si.
Mounier va à Rome au congrès, à assister à un congrès organisé par le gouvernement italien sur le corporatisme. Il, bien sûr, il est contre la guerre d'Éthiopie, il est pour le Front populaire. C'est un aspect de Mounier, mais il y a l'autre aspect, l'attrait exercé par la révolte morale des fascistes. Et aussi, on trouve dans l'esprit un grand article d'Alexandre Marc à la gloire de ce jeune nazi. Tout ça
oui,
en début de 1933.
Et on trouve dans l'esprit aussi des articles de Vladimir Rabi très tôt. Mais je voudrais...
Il y a de tout, mais il y a surtout... Mounier, c'est ça aussi.
Mais il y a un point
que je trouve... Et ça, ce Mounier-là, on ne veut pas le connaître.
Alors moi, ce que je trouve très important, je ne suis pas là pour défendre la revue Esprit, surtout pas pour défendre ce qu'elle est devenue. Il n'empêche, Paul-Louis Landsberg, qui était un philosophe, émigré en France, d'origine juive, converti au catholicisme, qui a résisté, qui est mort dans un camp, a donné en 1937 une définition de l'engagement absolument magnifique, dont la France n'a fait aucun cas parce qu'elle a été recouverte après la guerre par la définition sartrienne, et que Mounier reprend lui-même très souvent à son compte. Landsberg dit que l'engagement, il n'y a guerre de pareille activité sans une certaine décision pour une cause imparfaite, car nous n'avons pas à choisir entre des principes et des idéologies abstraites, mais entre des forces et des mouvements réels. Il est bien difficile de se décider pour une cause imparfaite, c'est-à-dire pour n'importe quelle cause humaine, mais la valeur d'un engagement consiste en grande partie dans la coexistence et la tension productive entre l'imperfection de la cause et le caractère définitif de l'engagement, car c'est par une telle conscience que la fidélité à une cause se trouvera préservée de tout fanatisme. Et là, quand même, c'est, je crois, au cœur de la pensée d'esprit des années 30. Voilà pourquoi il me semble difficile de le rallier complètement au fascisme pour dire que la France succombait à la tentation fasciste dans les années 30.
Ce qui est au cœur de la pensée d'esprit, c'est la décadence. La décadence française, la décadence bourgeoise, la décadence libérale. À l'individualisme libéral, on oppose le personnalisme qui est une toute autre chose. Et c'est la raison pourquoi, non seulement Mounier, mais les autres personnalistes comme Robert Aron et l'Ordre Nouveau regardent avec une admiration extraordinaire ce qui s'est produit non seulement en Italie, mais aussi en Allemagne. Et c'est ça qui est important. Et quand en 1940, Mounier parle de la défaite, il dit « Notre défaite est une défaite pour la France plutôt que pour l'armée française, tout au moins pour une certaine France, et derrière elle une certaine forme de civilisation occidentale, la civilisation bourgeoise, la civilisation des Lumières françaises, cette civilisation-là associée à la démocratie. »
Alors, maintenant, précisément, venons-en, avant d'arriver à l'actualité, à Vichy et à la résistance. Car il y a eu les années 30, cette ébullition, cette critique tous azimuts de la démocratie libérale, et puis il y a eu la défaite et la révolution nationale. Alors, première question, Vichy, est-ce la victoire tardive du fascisme en France? Deuxième question, est-ce dans les Lumières, dans la seule philosophie ou idéologie des Lumières, que la résistance a trouvé son impulsion? Pierre Mizard.
Vichy, pris dans sa globalité, moi j'aurais tendance à dire plutôt oui.
Vichy, c'est le fascisme.
Non, il n'est pas fasciste, mais il a gagné. Les hommes de Vichy ont gagné.
Mais les hommes de Vichy étaient...
Mais les hommes de Vichy n'étaient pas forcément...
Ah oui,
si vous prenez le premier Vichy tel que l'étudie... Non, tel que l'étudie Azéma notamment, n'était pas fasciste. Mais un certain nombre de dirigeants étaient fascistes, étaient fascisants, on se disait... Bon.
Pierre, s'il te plaît, dis-moi pourquoi le premier Vichy n'est pas fasciste.
Eh bien, le premier Vichy n'est pas fasciste parce qu'on n'y retrouve pas les traits que... On a mis dans un régime fasciste. Et notamment le totalitarisme que tu as attaqué tout à l'heure. Le totalitarisme qui est une volonté, pour ce qui est une volonté donc de de rattacher une idéologie à un ensemble. Et voilà.
Donc oui, c'est ça. C'est pas le parti unique.
Et alors
moi, la question que je voudrais poser, à l'inverse, il y a quand même un lien entre le fascisme et la guerre. Il y a une volonté d'expansion, une volonté de domination. Vichy, c'est un régime qui a grandi à l'ombre de la défaite. Est-ce que la défaite est compatible avec l'idéologie fasciste? Restons dans le terme d'une idéologie.
Mais elle est l'idéologie fasciste.
Les deux traits auxquels on s'accroche, expansionnisme et parti unique. L'expansionnisme, c'est une invention locale. Ça n'existe dans aucune définition du fascisme, dans la littérature. Tu sais pourquoi on a pris l'expansionnisme? Tu sais pourquoi? D'où ça vient, l'expansionnisme? Mais d'où ça vient? Ça vient évidemment de la guerre d'Éthiopie. Ce qu'on ne sait pas, que Pierre savait mieux que tout le monde, c'est que la conquête d'Éthiopie était un projet national italien depuis la fin du XIXe siècle. La première guerre d'Éthiopie s'est soldée par une défaite italienne et la reconnaissance de l'indépendance
éthiopienne. Mais justement, c'est parce qu'ils deviennent vainqueurs du jour au lendemain que toute la bataille d'Adoua, les morts d'Adoua sont restés dans les têtes.
Ça n'a rien de spécifique. C'était un projet national italien qui n'a rien de spécifique en fasciste.
Alors, autre chose.
Et le parti unique, c'est pareil.
Alors,
mais ça,
oui,
on ne sait pas si on a
mais quand
le temps
même,
pour ça.
La collaboration Vichy, qui s'y rallie massivement? Vous l'avez dit tout à l'heure, Zef Sternel, la France, au sortir de la Première Guerre mondiale, à la différence de l'Italie ou de l'Allemagne, était profondément pacifiste. Et les pacifistes basculent, et quelquefois c'était des hommes des Lumières, individualistes, libéraux, basculent massivement et choisissent, sinon la voie de la collaboration, du moins très longtemps, le soutien au maréchal. Alors je veux bien que le fasciste ne soit pas expansionniste, mais un mouvement ou un régime qui trouve la plupart de ses soutiens parmi des pacifistes qui s'accommodent très bien de la défaite, ça ne ressemble à aucune définition concevable du fascisme, me semble-t-il.
Alors, le fascisme, ce n'est pas l'expansionnisme, ce n'est pas l'impérialisme. C'est tout à fait dérisoire dans le fascisme.
D'accord.
Le fascisme, c'est la guerre à la démocratie, c'est la guerre au libéralisme, c'est la guerre au marxisme. Et tout ça se retrouve dans le premier Vichy. D'ailleurs, cette histoire du premier, deuxième, troisième Vichy qu'on doit à André Siegfried, et ensuite à notre maître à tous, à René Raymond, ça ne tient pas debout parce que c'est effectivement le premier Vichy qui importe. Le premier Vichy, c'est le Vichy de la dictature, c'est le culte du chef, c'est la mise au service de la révolution nationale, toutes les courroies de transition de l'État, l'administration, l'armée, les universités, tout est au service de ce projet de révolution nationale. Et les lois raciales en octobre 1940, elles importent pourquoi les lois raciales? Pas seulement parce qu'il s'agit des Juifs, mais parce que c'est le dernier clou dans la tombe de la Révolution française. Et ce régime qui termine ses décrets, sa législation vers le mois de décembre 1940, ça lui a pris 6 mois pour effectuer la plus importante révolution de l'histoire de France depuis 1789. Et c'est ce régime-là, ni réactionnaire, ni conservateur, il est engagé dans une course de l'avant, la course vers une révolution morale. On parle de l'homme nouveau. Et
voilà, si tu parles de l'homme nouveau, tu parles du totalitarisme. L'homme nouveau, c'est la volonté de reformater la société sur un autre modèle.
Ça y est.
Alors, bien sûr. Alors, justement.
Ça y est, bien sûr. Tout ça se trouve dans le premier Vichy déjà. Il ne faut pas attendre la milice pour ça.
Alors, une ultime question sur cette période.
Si on l'attend, c'est qu'il faut l'attendre.
Une ultime question sur cette période. Et ensuite, la période contemporaine quand même. Sartre, dans son article « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» dit « Ce serait une erreur de confondre collaborateur et fasciste. Certains fascistes sont abstenus de pactiser avec l'ennemi et d'autres sont entrés dans la résistance. Diversement, il s'est trouvé un certain nombre de radicaux, de socialistes, de pacifistes pour considérer l'occupation comme un moindre mal et pour faire bon ménage avec les Allemands. » Et il dit que la collaboration procède d'une décision profonde et originelle qui est celle de se plier au fait accompli. On appelait ça le réalisme et le réalisme consistait à traiter les résistants comme des belles âmes, et il y avait comme une sorte de virilité dans cette acception du fait accompli. Mais surtout, les résistants n'étaient pas de purs individualistes, c'était quand même pour beaucoup des héritiers, et c'est en tant qu'héritiers qu'ils se sentaient des obligations envers la France. Le mot d'honneur était au cœur de la guerre depuis Munich. Je cite Bernanos, qui n'était pas un homme des Lumières. « Nous croyons qu'il y a un honneur de la politique. Nous croyons non moins fermement qu'il y a une politique de l'honneur et que cette politique de l'honneur vaut politiquement mieux que l'autre. » Donc, on ne peut pas dire que la résistance, ce soit simplement des gens qui défendaient les Lumières. Ils défendaient aussi leur nation.
La résistance était tout d'abord un réflexe instinctif, voilà, du refus de la défaite.
De la défaite, bien sûr, de l'occupation. Bien et sûr. Une certaine... là-dessus, nous sommes d'accord.
Oui.
Bon.
Et ça, mais alors, pourquoi ne pas poser la question, pas seulement quand Larocque est-il passé de l'autre côté, ou quand Mounier et les siens, Beuve-Méry et les autres, sont passés dans la résistance. Pourquoi ne pas demander pourquoi se sont-ils engagés dans la Révolution nationale? Pourquoi Esprit a demandé le permis de paraître? Pourquoi Uriage a existé jusqu'au 1er janvier 1943? Et pourquoi Larocque a participé de toutes les mesures de Vichy les plus répressives? Et évidemment, vers la fin de 1942, début 1943, on savait que la guerre avait tourné.
Ça, c'est pas...
ça, c'est évident.
Oui,
c'est
mais
une
enfin...
autre affaire.
Oui, mais
ça,
c'est des gens qui ont quand même pris des risques. Donc
quand on parle... Tu sais, Fabre Luce, qui était pro-nazi en 1941, ce même Fabre Luce, à la fin de 1942, début 1943, retourne au Kazakh. Ça, c'est
évident. On ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Et certainement pas le colonel Larocque et Fabre Luce. Mais maintenant, la question aujourd'hui. Y a-t-il en France... avec la montée du Front National, les problèmes posés par l'intégration de l'islam, y a-t-il en France un retour, diriez-vous, de la tentation fasciste? Ce thème, les années 30 reviennent, vous paraît-il pertinent pour analyser la situation historique? Cette comparaison nous éclaire-t-elle ou nous aveugle-t-elle?
Je trouve qu'on n'en a pas besoin, parce que qu'est-ce que c'est le fascisme finalement? C'est un mot.
Oui.
C'était un concept, c'est une action, mais c'est un mot qui peut du jour au lendemain être remplacé par un autre mot sans qu'on ait véritablement l'impression qu'on a changé quelque chose. Alors si c'est pour Le Pen, Madame Le Pen, etc., aujourd'hui, moi je l'ai écrit à plusieurs reprises, j'ai même fait un article dans Les Droites en France de Serinelli. Non, c'est pas le fascisme, c'est une droite nationaliste. Et je le dis souvent, alors s'il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça, je me répète, pourquoi on en a besoin? C'est-à-dire, moi, je préfère un soldat italien ou un officier italien qui est devant la synagogue de Nice pour arrêter un flic de Vichy qui vient l'arrêter que le flic de Vichy qui vient l'arrêter. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour qu'il l'arrête.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là qu'il est nationaliste, il est expansionniste, il est à peu près tout ce qu'on a égrené comme phénomène, et qu'il n'est pas pour autant avec une signature fasciste.
De qui vous parlez? De l'italien ou du français?
Du français.
Ah oui,
je parle de
Le
Pen.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rapport entre Vichy, par exemple, et Marine Le Pen?
Moi, ma réponse est oui, il y en a forcément un parce qu'il y a le nationalisme, mais qu'il y ait une réponse qui soit Marine Le Pen est fasciste et non pas est une nationale populiste dangereuse, ce que je pense.
Voilà.
Hein, voilà. C'est là qu'elle est différente.
Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune raison méthodologique de penser que le fascisme est mort en 1945.
Oui.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le fascisme, c'est tout d'abord un nationalisme dur. Ce nationalisme-là peut toujours revenir, il revient en France, on constate sa présence dans d'autres pays, y compris le mien, ça ne fait pas de doute. Le refus de la démocratie ne peut pas être le même, mais ce que l'on peut faire, c'est lancer le peuple contre l'ordre libéral existant, ce qui s'est fait au tournant du XXe siècle. Au tournant du XXe siècle, au nom du peuple, au nom de la patrie, on combattait le régime, c'est-à-dire la démocratie libérale.
Oui, mais
ça, ça peut se faire.
Oui, mais Zef Sternel, quand même, on a l'impression qu'aujourd'hui, cette analogie sert surtout à ne pas voir ce que notre temps a de nouveau, d'irréductible. Parce que, certes, on a construit une question juive dans les années 30, mais pour autant, il existe vraiment un problème de l'islamisme. Il existe vraiment un problème de l'intégration en France. Et on a le sentiment que, pour ne pas penser ce choc culturel dont toute l'Europe est aujourd'hui le théâtre, parce que ça concerne aussi des pays qui ne sont pas en crise, comme la Norvège ou la Suède, etc., on plaque le schéma des années 30, qui a quelque chose de rassurant, qui a quelque chose, parce que voilà, c'est du déjà-vu, on est dans le jamais-vu. Alors certes, on peut retomber dans certaines errances, dans certaines folies, dans une certaine xénophobie, mais on ne peut pas se contenter du déjà-vu pour penser le jamais-vu.
Bien sûr que non. Mais ce à quoi il faut s'accrocher, c'est à l'idée que les hommes sont les mêmes, à l'idée humaniste fondamentale du XVIIIe siècle français, des Lumières françaises, à ça il faut s'accrocher. Et il faut s'accrocher à l'idée que la nation est un ensemble d'individus, ce n'est pas un corps qui vient du sacre de Reims. La nation est un ensemble d'individus.
Et Burke, que vous n'aimez pas, disait que c'est une association des morts, des vivants et de ceux qui sont à naître. Les individus, le monde ne commence pas avec eux.
D'accord, j'ai mieux que ça. J'ai la définition de la nation telle qu'elle est donnée par l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert. Ça tient en deux petites lignes, ça dépend de l'édition que tu as entre les mains. La nation, c'est une grande quantité de peuples, on dit, qui vit sur un même territoire, dans les mêmes frontières et soumis au même gouvernement. Mais c'était la définition de la nation des Lumières françaises.
Mais c'est pas mieux. Elle a un passé, la nation. Bon, ben, nous sommes obligés de nous arrêter parce que ce serait l'ouverture d'un tout autre débat. En effet, qu'est-ce qu'une nation ? Nous y reviendrons, Zef Sternel. En tout cas, je voudrais citer une nouvelle fois vos deux livres, Pierre Milza, Fascisme français passé et présent. Il est publié chez Flammarion dans la collection Champs. Zef Sternel, Histoire et Lumière, Changer le monde par la raison, entretien avec Nicolas Veil chez Albin Michel. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La vie quotidienne au collège. Mes invités seront Mara Goyet et Yanis Roder. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jehan Richard Dufour, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet. Aujourd'hui, il s'agira de l'actualité de Socrate.